France Inter.
Comme Claude Lorrain, comme Corot avant lui, Boudin veut capter toute cette poésie d'un moment, d'un effet de lumière particulier, spécifique.
CO2, mon amour.
Qui est justement indescriptible.
Denis Chessou.
Parce que toute la poésie est là, c'est dans cet effet lumineux très subtil, et c'est ça qu'il capte et qu'il veut nous rendre.
Sur France Inter.
Il y aura des vagues, il y aura des ciels normands, il y aura des mouettes dans le ciel et la palette d'Eugène Boudin. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour, la nature qui chuchote à vos oreilles, avec Jérôme Regano à la technique aujourd'hui, notre collaboratrice c'est Camille Blanès et c'est Maria Pasquet qui réalise l'émission. Allez, qui commence par une petite humeur boisée. Et la lumière fut et l'électricité sera encore et encore jusqu'à la fin des temps pour éclairer les pauvres poussières d'étoiles que nous sommes, qui avons tant besoin de lumière, d'écrans, de data centers, de voitures électriques chinoises fabriquées au charbon. Ah, faudra une orgie de watts, 2 gigawatts, et les projets ne manquent pas. Oh, le couvert forestier gagne dans notre pays. Il serait dommage de ne pas en profiter. Tous ces arbres qui captent le carbone comme ils peuvent, hein ? Pourquoi ne pas rentabiliser ce couvert, se dit le polytechnicien. Pourquoi ne pas en faire table rase, les couper sur des centaines d'hectares, les brûler dans de grandes centrales et sortir du sommeil la fée électricité qui dormait dans les bois, abonde l'industriel et le politique. Vous n'y croyez pas, et pourtant c'est formidable. Et bien de quoi qu'il nous parle, Denis ? Et bien, je vous parle en fait de la plus grande centrale biomasse de France, la centrale de Provence entre Méreuil et Gardanne. Alors d'accord, avec 234 grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure, l'intensité est 4 fois supérieure au facteur moyen de l'électricité produite en France métropolitaine. Bon, d'accord, avec un rendement d'un peu plus de 30%, l'affaire est assez discutable. Non, et puis vous n'allez pas nous embêter avec la pollution. La première des pollutions, voyez-vous, c'est l'air intérieur. Ben oui, moi aussi, je peux être de mauvaise foi. Quoi ? La biodiversité, les écosystèmes, les puits de carbone, les changements de paysage là, dans la zone d'approvisionnement locale à côté de chez vous en France ou à l'étranger, mais ça, on s'en fout, on ne le voit pas. Hein ? Et puis l'eau, les prélèvements, c'est qu'est-ce? Vous voulez quoi ? Regardez l'OM contre le PSG sur vos écrans électriques ou pas ? Eh ben oui, c'est peut-être ça la priorité. Alors Mediapart nous incite à suivre l'enquête d'utilité publique, prélude au projet fou de cette centrale de Gardanne, et ça va vous instruire. Cela s'appelle en fait une hérésie écologique, un hold-up sur nos forêts et notre économie. Mais je vous rassure, les gens qui pilotent ce genre de projet ont fait de longues études. Vous pouvez d'un côté planter de fiers arbrisseaux à grand renfort de fanfare, attendre patiemment, s'ils survivent, les 40 ans nécessaires à leur efficacité carbone, et de l'autre en faire du petit bois pour chaudière. Eh oui. Et de tronc en tronc, le piquet-pêche tambourine à s'en rompre le bec. Et tenez, la nouvelle positive, toujours dans le bois, 1340, retenez ce chiffre, il fera peut-être référence, ce n'est ni une statistique électorale, ni une date de l'histoire de France. Il s'agit de beaux hectares d'arbres neufs, petits, protégés des lapins, appelés à devenir une forêt nationale parfaitement libre et sauvage. Une sorte un peu de biélovéja, si vous voulez, du pauvre. On peut-être pourront divaguer dans des dizaines d'années de bons vieux bisons d'Europe. La forêt de Maubuisson pousse sur le territoire de 7 communes dans le Val d'Oise, entre donc la Seine et l'Oise. Laisser pousser, croître une nouvelle future forêt primaire sans considération économique de rentabilité, même pas un accrobranche, même pas un fabricant de planches à clous, non. Elle aura de quoi se nourrir puisque ses racines sont sur l'ancien champ d'épandage des eaux usées de la ville de Paris, ainsi réhabilitée. Donc une forêt naturelle, créée par l'Office national des forêts et les élus. Et voilà une nouvelle qui elle est bonne, hein, au cœur du piétinement de l'écologie par nos politiques et le ministère de l'agriculture, ça nous fait du bien. Alors ce sera pour les enfants de nos petits-enfants, hein, s'ils veulent bien un jour sortir le nez de leurs écrans. On va réhabiliter la patience. Belle initiative en tout cas qui montre une ébauche de prise de conscience de la brutalité avec laquelle Homo Faber ravage les ressources biologiques de son territoire. Heureux habitants de Méry-sur-Oise et des alentours, eh ben vous avez un laboratoire du vivant. Allez, je vous emmène dans le très joli Calvados, donc le peintre Eugène Boudin et la nature est à l'honneur.
Je porte ma maison sur mon dos, mes chansons, mon enfant sur mon dos, des émotions qu'il faut taire et la guitare en bandoulière. Ça fait lourd, ça fait tombe des bras. Ça fait tâche, tu ne t'y attendais pas. Je porterai plus que mon bagage. Je m'en fiche si tu me trouves lâche. Pas d'amour sans partage. Pas d'amour sans partage.
C'était Madame Luciani qui nous souhaitait bien du courage. Et bah écoutez, elle a raison. Je tenais à dédier cette émission à Daniel Jaouen, qui est mort à vélo la semaine passée, parce que c'est un homme qui aimait les Alpes, la Normandie, la photo, le jazz, France Inter et notamment CO2, mon amour. Et puis aussi une pensée très forte vers Delphine Marna Arguitou, à Champy, en Ardèche. Alors là, on le voit, nous sommes dans le Calvados. Le peintre Eugène Boudin est là, à 50 mètres au-dessus là, de Trouville où nous sommes. On est autour de 1850 avec Laurent Manœuvre qui nous le dépeint.
Oui, oui, avec son air de pêcheur, là, sa casquette, sa barbiche et puis...
Il a un côté un peu hirsute. Hein,
Oui. Puis son teint très hâlé. Vous avez vu, il a les yeux très très bleus d'un Normand. Hein. Ouais. Toute la famille... traditionnellement est tourné vers la mer. Son père a été matelot, sa mère est femme de ménage sur des bateaux. Lui, à 10 ans, il a été mousse sur un bateau de pêche. Et peut-être que ça a aiguisé son œil, en fait. Parce que quand un pêcheur sort, il faut qu'il connaisse la météo. Il regarde la mer, il regarde le ciel. Et donc Boudin, très certainement, il n'en parlera pas plus tard, mais très certainement, il a appris avec les pêcheurs à regarder le ciel et à regarder la mer. Parce que ça lui disait des choses. Et après, bon, il va abandonner la pêche et il va entrer chez un imprimeur. Mais très certainement, ça l'a vraiment marqué.
Bienvenue dans le joli Calvados, très diversifié. Vous avez Clessy au sud, cette perle qu'est la Suisse normande, les plages du débarquement, les vergers, une tapisserie, me semble-t-il, à Bayeux, le millénaire de Caen, un Guillaume le Conquérant à Falaise, et des peintres. Alors je vous emmène là où Boudin plante son chevalet. Oui, il est là, cet homme connu des amateurs de peinture, mais pas forcément du grand public. Eugène Boudin, pas facile de faire du buzz avec ce patronyme. Et pourtant, on lui rend hommage. L'exposition que vous pouvez voir au musée Marmottan, nous la devons à Yann Guyonvard. Yann Guyonvard, c'est un collectionneur patient, averti, un juste amoureux des lumières, des impressions et des couleurs de Boudin. Boudin qui voulait toujours rester sur ce que disait Camille Corot, ne jamais perdre la première impression qui nous a émus. Alors le gars était modeste, ah bah oui. Et Boudin, alors il se savait, un élément important quand même dans l'histoire de la peinture des paysages, qui commence avec Claude Lorrain, la peinture néerlandaise du XVIIe siècle. Il est né quand même, il y a deux siècles, en 1824, il était contemporain de Pissarro, Sisley, Manet, Degas, Renoir, Van Gogh, Cézanne, Monet évidemment, à qui il a permis de devenir qui il est. Donc quand même un beau tableau. Avec Laurent Manœuvre, commissaire de cette exposition, qui a écrit aux éditions de l'Atelier Contemporain « Suivre les nuages, le pinceau à la main », c'est la correspondance de Boudin, eh bien, nous allons faire ce petit voyage dans le Calvados. Son rapport à la nature, à Boudin, une observation modeste et poétique. Alors, en fait, il se met à peindre véritablement, il a quoi, 22, 23 ans ?
22 ans, ce qui est très tard pour l'époque. Parce qu'à l'époque, on commence à étudier la peinture à 14, 15 ans. Et là, lui, il a déjà tout un passé. Il a travaillé comme commis chez deux imprimeurs. Il a eu un commerce de papetier encadreur où il voyait défiler tous les artistes qui passaient par le Havre, venaient lui acheter du matériel. Parce que sa famille avait quitté Honfleur et était allée s'installer au Havre. Parce que le Havre, c'était la ville en développement.
On est à Londres.
C'est là où tu veux aller. C'est de l'autre côté. Ici, c'est le Havre, en Normandie.
C'était beaucoup de bateaux, des vapeurs. Quand Stendhal passe au Havre en 1832, il dit que ça lui rappelle Londres tellement il y a de fumée, de pollution près du port du Havre. Et Boudin, lui, voit ça dans son enfance parce que sa famille habite sur le Grand Quai. Le Grand Quai, ça donne là sur un des bassins du Havre. Et donc, il va voir tout ça. Mais il va détester. Il va détester le Havre par la suite.
Il y a un rapport quand même assez spécial quand même avec cette ville du Havre.
Oui, un rapport difficile, à la fois avec la ville du Havre, mais aussi avec les grands ports. Il va à Bordeaux, il n'aime pas. Il va à Anvers, il n'aime pas. Il dit tout ça, c'est bien pour les gens qui font des bénéfices, mais moi, je préfère le parfum de l'algue et de la grève et de la plage qui est abandonnée.
Alors c'est pour ça qu'effectivement, nous sommes ici donc à Trouville et qu'il aime bien ce petit port qui est juste à côté. Et il se retourne vers le petit port, là. Il regarde, là.
Oui, parce que Trouville, pour lui, c'est le lieu idéal. C'est pas trop grand. Il y a une activité, quand même, de bateaux assez importante. Il y a une flotte de pêche. Il y a les femmes de pêcheurs qui font la lessive dans la rivière. Et puis, il y a toujours cette observation météorologique. Ce qui va développer, ce sont des variations. Il regarde le port à marée haute, à marée basse. Le ciel est différent parce que tantôt il se couvre avec les marées, tantôt il se découvre. Et lui va peindre tout ça. Ce que Monet reprendra par la suite, quand Monet va faire ses meules ou ses cathédrales de Rouen, il va porter à une dimension beaucoup plus autoritaire, en quelque sorte, cette vision de Boudin qui est plus sensible, qui est de toutes ces petites variations de la lumière, de l'atmosphère d'une journée, eh bien, Boudin va peindre ça, inlassablement.
Et alors donc cet homme là, qui se retourne vers le Havre, donc avec cet estuaire de la Seine, il saura capter donc la lumière de cet estuaire de Seine.
Le premier à observer le côté extrêmement important de ça, ça sera Baudelaire. En tout cas, c'est peut-être pas le premier à l'avoir observé, mais ça sera le premier à le dire et à l'écrire. Il rencontre Boudin à Honfleur parce que Baudelaire a les huissiers à ses trousses, donc il se réfugie chez sa mère qui habite à Honfleur. La maison, on ne la voit plus parce que la falaise s'est effondrée depuis. Et donc, il se réfugie chez sa mère et à Honfleur, il voit les nuages, il rêve.
Hé, qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger ? J'aime les nuages qui passent là-bas, là-bas. Les merveilleux nuages.
Pour lui, c'est le lieu du rêve. Et il va voir un artiste qui travaille également sur le port et qui est Boudin. Donc, Baudelaire, curieux de tout ce qui est esthétique, va faire la connaissance de Boudin. Boudin l'emmène dans son atelier, lui montre des pastels faits d'après le ciel, justement, les nuages. Et Baudelaire, immédiatement, voit ce qu'il y a de nouveau. Et pour lui, c'est synonyme.
Il est capable d'attraper l'insaisissable.
L'insaisissable. Et pour Baudelaire, c'est le sens de la modernité. Parce que ce qui est nouveau chez Boudin, c'est justement le transitoire et le fugitif.
Bien avoir en tête que cet homme-là était arrivé dans une période qui était donc la période romantique à souhait. Le romantisme, c'était pas son truc. Il a dit, voilà, ça a fait son temps.
Oui, oui, lui, ce qu'il veut, Boudin, en fait, c'est un homme très intègre. Et il veut peindre ce qu'il observe, ce qu'il voit. Et les grandes tempêtes romantiques, les grands effets de couleurs exagérés des romantiques, c'est vraiment pas son affaire. Lui, il a une observation objective, et c'est peut-être sa force. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut regarder ses tableaux comme s'ils venaient d'être peints il y a 5 minutes.
Ah, il y a un côté instantané.
Il y a un côté instantané, et il y a toujours cette même lumière qui est là. Alors les nuages, il y a beaucoup de nuages, hein. Il aime ça, les nuages. C'est une des raisons pour lesquelles il aime venir à Deauville et à Trouville, c'est pour les nuages. Mais regardez, il y a toujours une petite pointe de bleu dans le ciel. Même quand il peint une mer un peu forte au moment des grandes marées, il y a toujours une petite pointe de bleu, une petite pointe d'espoir qui apparaît. Alors que Boudin, il a une chienne de vie. Il n'a pas d'argent, il est souvent malade. C'est vraiment difficile pour lui parce qu'il n'a pas beaucoup de clientèle. Mais il estime que quand il se met à son chevalet, il doit oublier tout ça et il doit nous apporter du plaisir, le plaisir de ce qu'il a sous les yeux, lui.
Et il va se tourner vers des gens qui sont novateurs. Il va se tourner vers des Corot, des Troyon, des Millet. Et d'ailleurs, Jean-François Millet n'était pas connu à l'époque.
Non, quand il rencontre Millet au Havre, Millet est débutant et il est portraitiste à ce moment-là. Et quand Boudin lui demande conseil en disant « je voudrais devenir peintre », Millet lui dit « non, non, surtout pas ». Vous êtes dans le commerce, vous vendez vos papiers, vos couleurs, restez-y.
Oui, vous allez crever de faim.
Voilà, sinon vous n'en sortirez pas. Et il ne se trompait pas, hein, Millet.
Alors il se tourne vers eux parce que là, on a une notion du paysage qui est différente. Et ils vont lui apprendre des choses.
Oui, ils vont lui apprendre, par exemple, Courbet, c'est grand maître du réalisme à cette époque. Ouais. Quand il rencontre Boudin, il veut faire la connaissance de Boudin. Et ça va, en quelque sorte, fortifier Boudin, parce qu'il avait déjà cette tendance réaliste. Mais d'avoir le grand maître du réalisme qui l'encourage et qui lui donne ses conseils aussi, et surtout qui va lui l'affranchir d'une sorte de timidité ouais. très importante. Boudin est quelqu'un de très timide. Et Courbet, pas du tout. Non. C'est une personnalité forte, autoritaire. Et Boudin écrira d'ailleurs dans son carnet, « Si je l'en croyais, je serais un des talents de cette époque. »
Ah oui.
Donc, Courbet a vu aussi l'importance de l'art de Boudin.
Ah, alors là, on voit un jeune garçon là, qui le rejoint. Dedans, là, ce ne serait pas Monet, peut-être ?
Ben oui, ce gars de 16 ans, là, c'est en fait un collégien. Et jusqu'à présent, il a eu beaucoup de succès en faisant des caricatures. Ouais. Au Havre, il s'amusait à faire des caricatures des gens un peu connus du Havre. Et ça avait beaucoup de succès. Et même, il les vendait. Il gagnait bien sa vie. Et Boudin a vu le talent de Monet. Et il s'est dit, ce gars...
Sortons-le de ses caricatures.
Voilà, de ses caricatures. Il ne va pas faire que ça toute sa vie. Et donc, Boudin va le voir et il lui dit, c'est bien ce que vous faites, vous avez du talent, mais... ça serait mieux de faire de la peinture. Et Monet, lui...
Bon, il n'aimait pas trop la peinture de Boudin, d'abord.
Je le cite, il dira, je n'irai pas du tout la peinture de Boudin.
Ouais.
Et donc, il va essayer de se défiler. Toute l'année, il se défile parce qu'il est collégien, donc il ne peut pas y aller. En plus, Boudin, il vit avec une femme, il n'est pas marié, il a abandonné un commerce stable pour devenir artiste. Donc tout ça, dans la bonne société du Havre, et Monet le dira, ça sa mère, elle se méfiait, quoi. Parce que Boudin, c'est la bohème, même si c'est une bohème très raisonnable. Et donc, Boudin, c'est un obstiné. Donc, chaque fois qu'il voit Monet, il lui rappelle, venez avec moi travailler sur nature. Et donc, arrive la fin de l'année, Monet n'a plus de prétexte ouais. pour ne pas y aller. Donc, il est obligé de suivre Boudin.
Et donc, voilà. Donc là, il est avec lui, tranquillement. Et alors, en fait, il est admiratif, quand même, de cet homme qui est pris de son art, puis aussi de son indépendance. Ça a beaucoup plu, donc, à Monet.
Oui, et Monet, tout à fait, vers la fin de sa vie, il se souviendra, il dira que les études faites par Boudin à ses débuts... Là, je cite Monet, hein, « J'en étais arrivé à être fasciné, fasciné, le terme est très fort, hein, fasciné par ces pochades, filles de ce que j'appellerais l'instantanéité. » Là aussi, comme Baudelaire, il a vu ce qu'il y avait de nouveau, c'est cette représentation de l'instant. Et tout l'impressionnisme va découler de cette instantanéité.
Tu peins dehors, maintenant.
Qu'est-ce que t'en penses ?
J'y connais rien, ça fait de goût. À force de devoir faire et que c'est beaucoup de travail, je me suis dit, il faut bien que ce soit beau. Mais me demande pas pourquoi.
Alors là, deux villas. Entre les deux, on voit le Havre. Ah oui, on n'a pas encore là, les cuves de pétrole qui sont là. Mais il y a toujours un truc qui l'anime, et peut-être que ça, il le fait passer aussi à Monet, c'est rester dans l'impression primitive qui est toujours la bonne.
Ouais. Tout le combat de Boudin, ça va être ça. Garder ce moment précis où il s'est passé quelque chose pour lui. Donc, il se rend compte aussi que plus il travaille en atelier, et plus il risque de perdre
oui.
cette ressemblance.
Ce moment fragile, quoi.
Ce moment extrêmement fragile. Et Boudin, parfois, dit « J'ai gâché des tableaux, je les ai trop travaillés, je les ai alourdis. » Il a perdu, justement, cette impression, puisque c'est ça, c'est l'impressionnisme, et c'est ce qui va transmettre à Monet et aux impressionnistes. Il faut garder cette impression, parce que c'est ça qui nous touche. Et c'est ça qui le touchait aussi.
Alors, on parle évidemment du père de l'impressionnisme, oui, parce que donc il emmène des gens donc, sur le motif, sur le terrain, tel Monet, mais c'est pas lui le père des impressionnistes, du mouvement des impressionnistes. Hein.
Non, il a des contacts avec les impressionnistes. Il expose avec eux une première fois en 1874.
Mais c'est quand même Monet et Renoir qui sont les chefs de file.
C'est Monet et Renoir qui lancent le groupe impressionniste. Boudin y adhère parce que Monet le lui demande, mais il se désengage très rapidement. Et à la fin de sa vie, en étant à Trouville, il dit « Dieu merci, il n'y a pas d'impressionniste ici ». Alors pourquoi il dit ça ? Parce que pour lui, l'impressionnisme, en dehors de Monet, dont il admire le talent sans limite, l'impressionnisme, c'est une école de la négligence. Et Boudin est un homme exigeant. Ces milliers de dessins, ces centaines d'études qu'il a réalisées, parce que ces personnages, quand vous regardez un tableau, vous voyez un petit personnage. Si vous regardez bien le petit personnage, il tient vraiment. On voit, il s'appuie sur sa canne. Et s'il y a un chien, on voit même la queue du chien qui frétille. Tout ça a été étudié, tout est construit. La composition est là. Un arbre n'est pas là par hasard. Une barque n'est pas là par hasard. Tout est construit avec une grande rigueur, malgré l'apparence un peu fait à la va-vite. Ça, c'est l'apparence. Et pour Boudin, beaucoup de peintres vont s'engouffrer dans ce que l'impressionnisme avait permis, c'est-à-dire une peinture qui n'est pas construite, qui n'est pas travaillée et qui ne communique pas, qui est juste à la recherche d'effets faciles.
Alors on va descendre et on va se retrouver sur la plage dans quelques instants.
Et toujours donc avec le roi de ces ciels, donc Eugène Boudin. Écoutez cette chanson. C'était au grand palais, sur des toiles de maître. Il y avait un Monet et deux ou trois Renoirs. Le cœur dans les tableaux, je me sentais renaître. Et en fermant les yeux, je pouvais les revoir.
Eh ben oui, Yves Duteil, regard impressionniste. Et donc Boudin nous disait « Je suis un isolé, un rêvasseur qui s'est trop complu à rester dans son coin et à regarder le ciel. » Est-ce qu'il était malheureux ? Non, pas du tout. Il avançait, il n'a pas eu évidemment une gloire extraordinaire de son vivant, mais donc aujourd'hui ça change. Nous sommes toujours avec, donc, dans ce beau département du Calvados, là où donc Boudin a planté son chevalet, avec Laurent Manœuvre.
Ouais, il aime bien la touque, il aime bien la représenter à différents moments, marée haute, marée basse, quand les femmes de pêcheurs sont en train de rincer leur linge avec des petites taches de couleur, des habits des femmes. Il aime ça, puis il aime bien remonter aussi, aller au-delà, et puis regarder les herbages. Et dans les herbages, on est en Normandie, il y a des vaches. Et ça, il aime bien représenter les vaches. Alors ça choque un peu quand je dis ça, mais quand il représente les vaches, c'est exactement comme quand il représente les petites dames sur la plage. Ce qui l'intéresse, lui, c'est l'effet de couleur, les effets de lumière, et comment les taches de couleur peuvent être absorbées par la lumière jusqu'à devenir des simples des abstractions.
C'est vrai qu'il ouvre la porte à l'abstraction, quoi.
Complètement, parce que Boudin homme intègre, peint ce qu'il observe. Qu'est-ce qu'il observe ? C'est que la lumière du bord de mer, elle est toute empreinte de sel, hein, l'atmosphère est empreinte de sel, et ça gomme le contour. Or, dans la peinture traditionnelle, il fallait qu'on voit bien les contours des choses. Et Boudin lui dit, mais non, il n'y a pas de contour. Il y a des taches de couleur. Donc, il peint les taches de couleur. C'est ce qu'il voit. Et c'est un choc culturel. Pour nous, ça semble normal. Mais à son époque, d'abord, il peint avec des couleurs vives, ce qui est nouveau. Et puis, il peint justement des formes qui sont assez approximatives pour donner justement l'impression de mouvement, mais aussi cette impression de bord de mer.
Alors, notre Boudin va être aussi un peu trop résumé parfois comme le peintre des plages. Bon, le peintre des ciels, ça oui, mais le peintre des plages. En fait, il a bossé assez peu de temps et pour lui, c'était quelque chose d'assez alimentaire quand il était à Deauville.
Oui, en fait, il assiste à la naissance de Deauville. Deauville, c'est un village de pêcheurs paumés au milieu des dunes. Et puis, le demi-frère de Napoléon III, le duc de Morny, vient voir son médecin, le docteur Olive, à Trouville. Et ils vont se balader et ils voient un petit village au milieu des dunes. Et Morny, c'est quelqu'un qui a le sens du foncier et de la spéculation, hein, disons-le. Et il se dit, on va construire une station balnéaire ici. Donc, en très peu de temps, en l'espace de 4 ans, on construit une gare, on construit un casino, un champ de course, une église et des villas, parce que toute la bonne société, ou en tout cas tous les membres de la cour impériale, se font construire des villas à Deauville. Boudin voit ça.
Donc, il y a un petit commerce à faire.
Eh ouais, il se dit, ces gens-là, ils ont de la thune, donc ils vont m'acheter mes peintures. Mais ça ne va pas du tout marcher, en fait, ça va être un bide. Parce que lui, toujours son honnêteté, il voit, résume ces petites dames très élégantes à des taches de couleur.
On n'a pas envie d'être résumé une tache de couleur quand on est de cette classe-là, entre guillemets.
Voilà, on a acheté sa robe chez Wörth, et donc ça coûte plusieurs milliers de francs, et on a envie de voir toutes les dentelles, toutes les parsementeries, puis voir même la griffe qui apparaît. Or, Boudin, lui, il résume tout à des taches de couleur. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, il représente des baigneuses. Et ça, en costume de bain. Et ça, à l'époque, une dame en costume de bain, soit c'est dans le fumoir de monsieur, là où ça sent le cigare et où les dames n'entrent jamais, mais c'est une peinture un peu qu'on n'a pas envie d'avoir chez soi, quoi. On n'a pas envie d'afficher. Donc
ça ne marche pas.
Ça ne va pas marcher.
C'est-à-dire que les gens ne sont pas sensibles à ces atmosphères météorologiques.
Absolument.
Comment il a vécu, en fait, Boudin ? Ça a été, les périodes de vache maigre aussi. Il y a quand même eu une grande dépression, quand même, qui a existé en 1873.
Ouais. Donc, les années 60, ça ne marche pas très fort. Puis, en 1869, les choses s'arrangent jusqu'en 1872. Là, il gagne pas mal sa vie. Et donc, arrive la Grande Dépression, effectivement, en 73. Et là, pendant plus de 15 ans, 20 ans même, grande crise économique mondiale. C'est vraiment les débuts de la mondialisation. Hein. Et l'art contemporain va en faire les frais. Pas l'art ancien. Dès qu'un artiste meurt, hop, sa cote s'envole. Millet mange de la vache enragée toute sa vie, et puis il meurt, et dès l'année suivante, sa cote s'envole. Et Boudin assiste à ça. Les impressionnistes assistent à ça. Et ils se disent, il faut qu'on se fasse connaître, malgré tout.
Je suis sûr que ça va vous plaire.
Ah oui, non, mais c'est grand tout de même.
À Pontoise, il y a une coopérative des boulangers, comme une petite république. Je propose donc le même nombre d'œuvres pour chacun d'entre nous.
Attention, messieurs, je ne veux pas d'une nouvelle exposition des refusés. Nous serions ridicules. Alors ouvrons nos portes quelques jours avant le salon. Et surtout, rassemblons le plus de peintres possible, afin de véritablement peser.
Je peux avoir Boudin et Yonkind pour sûr.
Et moi, je peux avoir Cézanne.
Comment ils font là ? Ils vont faire un peu de marketing là.
Ouais,
racontez-nous.
Complètement. En 1974, on les refuse au salon. Ils n'ont nulle part où exposer. Donc ils disent, on va créer une association. C'est Monet qui a l'idée de ça. On va créer une association et on va s'exposer. Alors, marketing complet. Ils choisissent le boulevard des Capucines qui, disent les témoins de l'époque, est le boulevard le plus passant de Paris. Ensuite, ils s'installent dans les anciens studios de Nadar. Tous les gens chics sont venus se faire photographier chez Nadar. Tout le monde sait où c'est. Après, ils mettent un tissu, de très beau tissu, sur les murs, ils mettent des divans, ils soignent l'éclairage, ils font de la publicité, ce qui ne se faisait pas. on ne faisait pas de publicité. Et il y a un journaliste qui dit, mais qu'est-ce que c'est que ces effets de Barnum avec ces affiches voyantes? Ouais. Vous voyez, l'art, c'est de bon goût, donc ça ne doit pas être voyant. Il s'affiche comme républicain à un moment où la République peine à s'affirmer, en mettant des drapeaux bleu, blanc, rouge, en mettant des mâts place de l'Opéra pour signaler leur exposition. Enfin, vraiment, ils mettent en place tout un système marketing, effectivement, pour faire connaître leur art, et qui est le système de marketing sur lequel on fonctionne aujourd'hui, y compris le scandale. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes un artiste contemporain, si...
Ah non, il faut du scandale.
Si il faut du scandale. S'il n'y a pas de scandale, non, non. Vous n'êtes pas un artiste.
Ah, alors là, un autre lieu. On est vraiment face à l'estuaire de la Seine. Alors ça, ça faisait partie des... aussi des impressions météorologiques qu'il aimait bien, quoi, Boudin.
Oui, on est sur la... au sommet de la Côte de Grâce, qui, avec sa petite chapelle et son calvaire, qui domine vraiment... l'estuaire, avec le Havre en face, et en bas on a Vasouy, où Boudin aimait bien aller peindre des pêcheurs. Il y a des hêtres de la Côte de Grâce, très beaux arbres que Boudin a peint aussi très souvent.
C'est, il les aimait. Il aimait beaucoup le
hêtre. Ouais. Il aimait peindre les hêtres de la Côte de Grâce. Et il n'était pas le seul. Hein. Corot aussi est venu, il a peint. C'est un tableau qui est au Metropolitan Museum aujourd'hui, qui montre ce panorama, justement, avant que Boudin le peigne à son tour.
Et puis alors, juste derrière nous, la ferme Saint-Siméon, bon, qui a un tout petit peu changé, parce que là, vraiment, c'est du super luxe. Mais donc, à l'époque, c'était quoi, la ferme Saint-Siméon?
Ah bah, à l'époque, c'était ce qu'il y avait de moins cher. Boudin dit qu'il est le premier à y loger de manière permanente, hein, quand il quitte le Havre et qu'il s'adonne à la peinture, et que c'était extrêmement bon marché. Donc, il se nourrissait des produits de la ferme. Puis le dimanche, les pêcheurs venaient. Le dimanche, tout le monde venait et le linge était étendu sur l'herbe. On buvait du cidre. Ou le flip. Le flip. Il y a une petite aquarelle qui représente...
C'est quoi le flip, hein ?
Alors voilà, il y a une petite aquarelle qui représente Yonkind et Monet. C'est une aquarelle réalisée par Boudin. Et Monet lève son petit bol de flip. Alors le flip, c'est quoi ? C'est un mélange de cidre et de calvados chaud.
Bien sûr.
Après, il va y avoir toute une communauté d'artistes qui viendront à la ferme Saint-Siméon. Il y avait des décorations, mais les artistes venaient, c'est comme à Barbizon ou comme dans beaucoup d'auberges. Ils venaient là parce que c'était bon marché.
Bien sûr. Bon, je ne sais pas si Boudin donc, serait écologiste, mais enfin, il défendait la nature quand même, parce qu'il savait que c'était sa matière première.
Oui, parce qu'il aime la nature, vraiment, il aime la mer. D'ailleurs, il n'arrête pas de le dire, il veut revenir à la nature. Quand il est à Paris, il parle de son travail à Paris comme d'un métier de forçat. Pour lui, la vraie vie, la liberté, c'est au contact de la nature. Il le dit, hein, c'est d'être au contact de la mer, au contact des éléments. Pour lui, c'est ça la vie. Vraiment. Et il y croit, et c'est ce qu'il veut nous transmettre. C'est son bonheur. Quand il est face aux éléments, face à ces éléments primitifs, même quand il peint à l'arrière-saison, c'est de nous communiquer ce plaisir de voir la mer agitée, de voir le ciel qui est balayé par les nuages. Tout ça, c'est vraiment son bonheur, et c'est le nôtre.
Avant de se quitter, Laurent Manœuvre, que peut-on vous souhaiter ?
Bah écoutez, ce que moi je souhaiterais, hein, Denis, c'est que le talent et la poésie et la vision de Boudin soient partagés par un grand nombre de personnes et soient vraiment appréciés à sa juste valeur. Parce que, en dehors des débats de grand maître, petit maître, à mon avis, ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est est-ce que cette peinture nous communique quelque chose ? Et elle nous communique quelque chose. Et j'aimerais que beaucoup de gens reçoivent cette communication.
Ça, c'est superbe. Hein. Ouais.
Merci donc à Laurent Manœuvre qui a écrit Eugène Boudin, le père de l'impressionnisme, une collection particulière, hein, celle de Yann Guyon-Var. Donc c'est le catalogue de l'exposition donc à Marmottan. Il a aussi écrit donc l'atelier contemporain, suivre donc les nuages, le pinceau à la main. Donc c'est la correspondance aux éditions d'Atelier Contemporain. Et puis grand merci à Calvados Tourisme et à eux seuls, parce que sans qui cette émission n'aurait jamais pu avoir lieu. La semaine prochaine, dans l'ancien bassin minier du Nord. On va aller à Marchienne avec le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France. On va encore changer de lieu comme on aime le faire. Merci à Camille Blanès, à Marie Pasquier qui, avec sa très jolie écriture radiophonique, a colorisé donc, cette émission. Et puis on se retrouve sur Instagram, sur LinkedIn, sur Blue Sky et l'application donc, Radio France. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur. Autrement dit, une très bonne fin de dimanche.